Radio Campus, 88.3 FM.
Écoute ta ville.
Donc je suis arrivé dans le quartier des Blossières.
Parole d'habitants, les habitants nous racontent l'histoire du quartier.
5-9,
écoute ta ville.
Découvrez avec nous le quartier Blossières-Murnin.
Écoute ta ville.
Habito, il quartier des Blossières.
Parole d'habitants.
Les habitants nous racontent l'histoire du quartier.
Écoute les Blossières.
Voilà maintenant plusieurs semaines que Radio Campus s'est immergé dans le quartier des Blossières et des Murlins pour recueillir des paroles d'habitants. Nous leur avons demandé de témoigner sur leur quartier, son histoire et son évolution.
Sur le quartier, avant, c'était que des arbres, des bergers. Et les arbres, c'était des pruniers et la prune s'appelait la Blosse. Et c'est devenu le quartier des Blossières.
Nous nous sommes attachés à en comprendre le développement urbain et la construction des relations sociales qui en découlent. Depuis l'angle de la rue Jacques Grolot à celle des Murlins, en passant par les rues Jules Noël, Charles Le Chauve, Desclosiers et Maurice Dubois pour ne citer qu'elles, nous vous restituons leurs mots qui racontent des tranches de vie, évoquent des souvenirs et dessinent une histoire. Écoute ta ville. Des changements s'opèrent dans les années 90.
C'est quoi le problème?
Le quartier évoluait et peut-être avec, d'une part, le fait que les commerces disparaissaient, avec peut-être aussi des habitants nouveaux qui arrivaient sur le quartier. Je crois que c'est un quartier qui a été construit dans les années 60-70, avec la cité d'urgence, et puis donc tous les grands ensembles, enfin en même temps, hein, c'est de l'habitat collectif, mais c'est pas encore quelque chose de monstrueux comme on peut l'imaginer en région parisienne. Oui. Hein, ça reste quand même dans des proportions raisonnables. Et donc, il y avait des habitants de la première heure qui étaient arrivés ici dans les années 70. Et on arrivait à cette période où ces personnes vieillissaient. Et il y avait un renouvellement de la population. Et on le sent encore plus aujourd'hui dans notre rue. Beaucoup de personnes âgées que j'ai connues en arrivant ne sont plus là. Et donc il y a un renouvellement qui se fait de façon assez naturelle et qui se fait y compris dans l'habitat collectif. Et en effet, c'est une période où on a commencé à dire que on envoyait dans le quartier des gens dont on ne voulait plus dans d'autres quartiers type La Source ou bien l'Argonne. Alors, était-ce réel ou était-ce de la fantasmagorie? On pouvait se poser à l'époque la question. Bon, aujourd'hui, c'est avéré que la population a changé et qu'on a affaire, à des gens qui ont moins de moyens qu'il y a quelques années. Et ça se sent, ça se ressent. Et puis, la population est beaucoup plus bigarrée. Et ça aussi, on le constate, notamment à l'école, où les enfants viennent de différentes origines. Donc ma fille était à l'école maternelle dans le quartier, et quand elle est passée en primaire, la carte scolaire faisait qu'elle n'aurait pas dû rester à l'école Jean Mermoz, enfin elle n'aurait pas dû aller à l'école Jean Mermoz, mais aller dans une école qui est sur le Faubourg Bagné, mais plus vers la médiathèque.
D'accord.
Et moi, je trouvais très dommage de couper ma fille de ses camarades. Elle avait vraiment des amis. Et même nous, parents, on s'entendait bien. D'autant que je savais qu'elle reviendrait au collège ici. Bon, je me disais, c'est dommage de la couper pendant quelques années de ses copains et de ses copines. Et donc, j'ai demandé une dérogation pour qu'elle puisse aller à l'école Jean Mermoz. Alors, au début, on m'a regardé avec des grands yeux, parce qu'en général, ça va plutôt dans l'autre sens. Il y a des parents du quartier qui demandent une dérogation pour sortir du quartier. Et alors que Nous, on aurait pu envoyer notre fille en dehors du quartier. On a préféré qu'elle reste sur le quartier. Et franchement, je ne l'ai pas regretté. D'abord parce que Jean Mermoz est une excellente école. Elle était pilote, notamment pour tout ce qui est informatique. Entre parenthèses, ma fille fait des études d'informatique. Donc ça a quand même beaucoup contribué, je pense, à sa vocation. Et puis, en tant que parent délégué, j'ai été en contact avec l'équipe enseignante et je trouvais que c'était des gens mais incroyables, quoi, qui étaient dévoués au, enfin, pour les enfants, rien n'était trop beau, enfin, ils donnaient tout et j'ai jamais regretté d'avoir demandé cette dérogation. Je trouvais que c'était vraiment une bonne chose qu'elle soit restée sur le quartier. Mmh. Elle y a été heureuse dans cette école, elle a pu continuer à voir ses potes. Et puis elle les a retrouvés ensuite au collège Jean Pelletier. Et bon, là aussi, voilà, on dit toujours que les établissements du quartier. On dit toujours. Il se dit parfois que les établissements du quartier ne sont pas au niveau, etc. Ben, ça ne l'a pas du tout empêché de faire des études. Par la suite, elle s'est retrouvée à Potier sans être gênée en quoi que ce soit, avec un bon niveau. Je pense que quand on a envie d'apprendre, on apprend, y compris dans son quartier. En tout cas, les profs sont bons et sont dévoués.
C'est-à-dire, dans les années 70, il y avait plus de travail que maintenant. Années 75, 77, bon, il y a une conjoncture qui s'est faite, et il n'y avait plus de travail pour personne. Après, ben, les petits jeunes de quartier, ils n'arrivaient plus à trouver de boulot. Et même ma femme, qui n'était pas étrangère et tout ça, ben, pendant une période de temps, elle n'a pas eu de travail. Elle a été obligée, pendant un bon bout de temps, d'être à la NPE, et puis elle a fini sa retraite comme ça, sans avoir d'emploi. Hein, c'était la difficulté, leur difficulté déjà pour chacun. Mais un jeune, vous comprenez le problème, eux, ils n'avaient plus rien du tout.
C'est-à-dire, quand on est trop jeune, on ne trouve pas. Et moi, j'ai eu un licenciement économique où j'ai travaillé pendant 24 ans. Bah, j'avais presque 40 ans, bah, je ne trouvais plus de travail non plus, parce qu'à 40 ans, on est trop vieux. Alors après, bah, j'ai fait des stages, des contrats, contrat CES à l'époque, qui n'existe plus maintenant, qui était à mi-temps, de l'intérim. Et puis, arrivé à 55 ans, bon, bah, j'avais plus rien. Alors bon,
Le message pour la jeunesse, comme a dit ma femme, c'est aux parents de les éduquer. Hein, si les parents ils éduquent pas leur fils, ils feront n'importe quoi.
Il faut les orienter vers quelque chose. Tous les enfants devraient faire déjà un sport, n'importe quel sport, mais qu'ils s'occupent, c'est ça, qu'ils s'occupent, qu'ils aient toujours une activité en dehors de l'école.
Mais l'activité...
Pourtant, ils en font à l'école maintenant que nous, on n'avait pas à notre époque. Nous, à notre époque, on n'allait pas à la piscine, l'école, ils en ont.
Ce qu'ils font, c'est l'activité sportive. Ils font, mais les activités sportives sont payantes. Les parents n'ont plus de boulot et tout, ils ne peuvent pas se permettre d'aller en salle.
Ne serait-ce que de faire des footings, des trucs, il y a des choses.
Ça, c'est les footings, mais je lui dis, c'est les parents qui éduquent leurs enfants. Si les parents ne font rien du tout, ils sont abandonnés dans la rue, ils ont 14 ans, ils sont dehors. Pendant un moment, il y avait le maire qui voulait faire tout, parce que les gamins qui ont 13-14 ans, à minuit du soir, ils étaient encore dans les rues. Que ça se fait pas.
Non, il y a quelques sports quand même qu'ils peuvent faire. Je dis faire du vélo, faire des footings, faire des choses. Il y a quand même des trucs à faire.
Oui, mais ça, c'est l'éducation. Oui. Moi, l'éducation en bodybuilding ou autre, moi, j'éduque les gens à se préparer. Je leur dis, s'il n'y a rien de fait, ils n'y arriveront pas. S'il n'y a pas de conseils, de bons conseils, c'est des conseils, mais de bons. Tandis qu'ici, dans l'immeuble, avant, c'était uniquement les gens qui travaillaient. D'accord, c'était 1% patronal des gens qui travaillaient.
Oui. D'accord. Moi, je travaillais à l'époque, à l'entreprise où je travaillais, c'était Terre-Mort. Donc, j'ai eu le logement avec Terre-Mort. Et tous les gens qui avaient... C'était des gens qui étaient Terre-Mort, Rivière-Casalis, Jeune Dire...
Michelin, que des gens qui étaient dans des entreprises,
que la part patronale. Ici, c'était des loyers pas chers, justement, pour ça. C'était très bien, parce que c'était des très beaux logements, mais qui n'étaient pas chers. Mais après, ça a changé.
C'était compris comme logement résidentiel. Hein, tandis qu'en face, aux 8 rues Charles Le Chauve qui en tête, là, c'était l'étude des HLM.
D'accord.
Les grands bâtiments
ici,
qui sont...
c'est pas HLM, enfin.
C'était résidence. Et maintenant, il y a... pas mal de gens qui sont nus et on donne tous les logements, si vous voulez, aux étrangers.
À n'importe qui, on les donne. C'est-à-dire que ce n'est plus les gens comme avant, la part patronale, ça n'a plus rien à voir, ça.
Disons, point de vue hygiène, ben, c'est pas bien, parce que vous savez, vous avez des poubelles, et puis les gens, ben, ils mettent tout leur sacs sur la route et tout ça, qui est désastreux.
Nous,
on range, il y a moins de respect.
Il y a un manque de respect.
Il y avait un gardien. Le jour, nous, on partait en vacances. Quand on partait en vacances, on lui donnait le clé. Il y avait un petit tableau en bois, je me rappelle, et puis il mettait la clé. S'il y avait une inondation d'eau, on ne sait jamais, donc il avait les clés pour pouvoir subvenir à nos besoins. Tandis que maintenant, il n'y a plus de gardien.
Ah, vous n'avez plus de gardien,
d'accord. Il y a un gardien, mais le gardien, à l'opposé, si vous voulez le voir et tout, si vous avez un grave problème et tout, ben, le problème ne se règle pas au
public. Ils ne sont plus dans les immeubles.
D'accord.
Avant, le gardien du 3, 5, 7, il habitait ici, au 5, au rez-de-chaussée. Donc, c'était très bien surveillé, c'était plus propre, hein, parce que c'était lui qui faisait les ménages et tout. Bon, maintenant, c'est des sociétés extérieures, mais bon, c'est pas fait pareil. Hein,
C'est du va-vite, donc.
C'est du va-vite, oui. C'est bien nettoyé au rez-de-chaussée, mais si vous regardez les escaliers, alors là, c'est plus pareil. Hein.
C'était plus consciencieux.
Ah oui, il avait
alors
du travail.
C'est pour ça qu'après, bon, ben, tous les jeunes et tout, ben, ils se mettent dans les immeubles et tout ça, et puis... Parce qu'avant, dans le temps, il n'y avait pas de porte. Quand on habitait ici, il n'y avait pas de porte. Hein. Tout le monde pouvait rentrer sans...
Ah oui, ça a été fait après.
Il n'y a pas eu de porte avec des...
Avec un digicode.
Avec des digicodes, tout ça. Les gens rentraient, mais il y avait moins de problèmes. Alors maintenant, comme il y a un digicode, bah, des fois, les jeunes, bah, comme ils rentrent, ils veulent plus. Des fois, bah, ils tirent sur les portes.
Ils cassent les portes
par la cave et tout ça. Oui, c'est ça qui est désastreux.
Oui. D'accord.
Bah, oui. Il n'y a plus de gardien attitré... Alors donc, quand il n'y a plus de gardien, bah c'est plus pareil.
Non, puis même s'ils n'ont pas un badge ou un numéro de code, ils sonnent chez un copain, et le copain il ouvre la porte, et puis ça se passait comme ça, entre jeunes. Oui. D'ailleurs, il y en avait pendant un moment, hein. Un jeune, il ouvrait à tout le monde, parce qu'il connaissait tous les jeunes du quartier. Alors bon, bah, puis après, ils étaient dans les escaliers, ils mangeaient. Alors le lundi matin, surtout, il fallait voir les escaliers. Hein. C'était des boîtes à pizza, c'était des bouteilles, c'était des canettes... Il y a des fois, le lundi matin, on ne pouvait même pas descendre par l'escalier.
D'accord.
Oui, mais ce qui est désastreux, c'est... Moi, je défends quand même les petits jeunes d'ici. Il y en a qui ne sont pas un truc. Mais c'est les gens des sérieux qui viennent toujours. Vous savez, des fois, je voyais des gens dans les escaliers qui venaient.
Ah oui,
mais ce n'est pas des gens d'ici. Je ne les connais pas. Ils viennent de l'extérieur pour faire leur trafic. Et après, c'est les jeunes d'ici qui trinquent. Vous comprenez ce que je veux
dire? En ce moment, il y en a quelques-uns qui rentrent encore.
Oui, mais ils ne sont pas du quartier.
Non, mais justement, ils ne sont pas d'ici. Mais il y en a. Moi, l'autre fois, je suis allée à la cave pour mettre un sac. Ils étaient dans la cave. Ils n'ont rien à faire dans la cave. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient en train de planquer quelque chose. Oui.
Écoute ta ville.
C'est que neuf blossières.
Paroles d'habitants. Les habitants nous racontent l'histoire du quartier.
Radio Campus 88.3 FM.
Alors là, on verra. Hein, c'est suivant le temps qui nous reste à vivre et tout ça, on verra.
Ça fait un peu peur. C'est vrai que ça fait un peu peur, mais bon.
Alors,
plus qu'on va en avant, hein, comme on dit, plus il y a tout le temps des trucs qui se créent. Il y a plein de trucs qui n'existaient pas il y a 50 ans.
Oui, c'est moins calme aussi. Hein,
c'est moins calme qu'avant. Hein. Maintenant, vous voyez, les attentats et tout ça qui n'existaient pas avant. Même avant, quand c'était bagarre de jeunes, on appelait ça les bousons noirs. Oui. Ils se bagarraient à coups de poing.
Oui, c'était pas méchant.
Mais il n'y avait pas
un... Maintenant, on sort un couteau.
C'est couteau, c'est revolver. Quand vous avez... Je parle pas pour moi, mais des personnes qui sont âgées, des petits jeunes, bon, ils vont bousculer une petite dame pour un petit billet de 10 euros qu'elle a dans son porte-monnaie. Que ça n'existait pas avant. Un jeune n'aurait jamais fait ça. Un jeune, moi, je me rappelle, quand on était jeune, il y avait des commerces, il y avait une petite pomme, on prenait une petite pomme, on sauvait, mais ça n'allait pas plus loin, on n'aurait jamais pris. Tandis qu'il y a maintenant, c'est ça. Hein.
Ça voilà, si vous allez,
si vous allez à Place d'Arc et tout ça, il y a toujours des trucs qui sont... Il y a toujours, comme vous dites, c'est toujours des bandes qui font des trucs. Et puis après,
on a des craintes.
Les personnes, on en peur. C'est des craintes pour les années à venir. Le bar presse, est tombé à l'abandon. Il y a quelqu'un d'autre qui va peut-être le reprendre parce que pendant presque un an, c'est tombé à l'abandon. Ça a toujours marché. Et puis, le pauvre Denis, qui était un gérant de ça, il est tombé à l'abandon. Il a tout laissé tomber. le truc.
Mmh. Et puis à côté aussi, c'est libre maintenant, mais bon, je ne sais pas.
Oui, alors il y avait quelqu'un juste à côté où il y avait le salon de coiffure. Bon, c'était un marque que je connaissais bien, donc il avait même été à l'école avec mon fils. Bon, il avait ouvert un petit magasin, vous savez, de pizza, puis il faisait ses petits trucs. Mais il a été dégoûté parce que justement, il y avait d'autres jeunes qui venaient et tout, et puis bon, qui faisaient comme chez eux, vous savez. Bon, qui vendent une pizza, mettons 5 euros, les autres, ils arrivaient, ils ne posaient que 3,50 euros sur le truc. Alors, il y avait un moment, il dit, moi ici, je suis chez moi, chez vous, vous êtes chez. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, il a tenu ça un an et puis paf, il a abandonné le projet parce que ça faisait une petite activité, si vous voulez, sur le truc. Mais après, il y avait d'autres gens obligatoirement des gens du quartier d'ici, de l'extérieur, vous comprenez ce que je veux dire?
C'est les jeunes justement qui se mettent à côté, là, où il y a la pharmacie et tout ça. C'est eux qui ont mis la pagaille. C'est dommage. Parce qu'il était très gentil. C'était un Marocain, je crois.
Il était à l'école avec mon fils.
Il faisait des pizzas, des frites, des pâtisseries orientales.
Il était dévoué.
Il avait sorti
un magasin, c'était propre, c'était hygiénique et tout ça. Il avait fait un beau petit magasin, mais arrivé un moment, il a été dégoûté.
Les incivilités, encore une fois.
Voilà, c'est ça.
D'accord.
En fin de compte, oui. Il est parti en vacances, je crois, puis après, il n'a pas repris.
Il a repris juste 15 jours, et puis après, quand ça a recommencé,
on était même étonnés, parce que c'est vrai que nous, on l'aimait bien.
Non, parce qu'il squattait là-bas, au coin, comme on vous dit, au coin de la pharmacie et tout même tous les voisins, ils en avaient marre. Bon, il y a la police municipale qui passe, mais ils n'ont pas ils peuvent pas. Vu la conjoncture actuelle, bon, il n'y a plus la fermeté qu'il y avait comme avant. Moi, je me rappelle avant. Quand j'étais jeune, j'habitais à Nogent-sur-Marne. Il y avait quelqu'un qui faisait des bêtises dehors. Il y avait le panier à salade, on appelait ça un panier à salade, avec les trucs, il y avait la police qui avait, hop, ils alpaillaient le gant et puis ils le mettaient directement dans le truc. Ben, hop. Vous voyez, ils l'attrapaient par. Il y avait plus de.
Parce que là, ils s'arrêtent, ils les interrogent, ils leur demandent leurs papiers, mais bon, c'est tout. Après, ils
s'en vont. Ils n'ont pas le.
Et souvent, ils ne passent pas aux heures qu'il faut aussi. Ils passent dans la journée, mais le soir, on ne les voit pas assez.
Non, mais ce n'est pas ça. C'est le règlement de la réglementation du gouvernement. C'est le gouvernement qui laisse aller. Vous comprenez ce que je veux dire? S'il y avait le truc comme dans le temps qui se faisait, il n'y aurait pas ces problèmes-là. Le quartier était plus propre. Donc maintenant, les gens, ils posent leur gravats dans la rue et tout, qui se faisaient pas.
Les sacs poubelles sont à côté des poubelles. Parce qu'ils ont la flemme de mettre dans les poubelles ou de descendre à la cave quand les poubelles sont pleines. Ils mettent tout à côté. Bon, les égoueurs ne ramassent pas. Ça reste pendant des jours sur les trottoirs. Alors c'est le gardien, à l'occasion, quand il passe, qui range. Mais ça reste, tout reste comme ça.
Au niveau aussi de l'origine géographique, aujourd'hui dans le quartier, il y a plein de nationalités qui sont représentées. Est-ce que c'était le cas quand vous êtes arrivé en 73? Est-ce qu'il y avait cette diversité d'origine géographique dans la population?
Il y avait déjà, mais ça s'est beaucoup augmenté.
C'était beaucoup espagnol, portugais, beaucoup. Mais ce sont des gens souvent qui, après ça, ont réussi à trouver des petites maisons dans le coin d'ailleurs, qu'ils ont retapées, et donc ils sont partis. Et c'était. Bon, puis là c'est pareil, après ça, c'est. Moi je crois que les écoles ont un très grand rôle à jouer parce que c'est elles le vecteur de rencontre des parents. Parce que sinon, automatiquement, les gens sont pas sûrs de. Se font très discrets. Je pense, pour un tas de raisons, et vivent, ont tendance un petit peu à retrouver les gens de leur pays ou de leur communauté. Et c'est donc difficile qu'il y ait une vie de quartier aussi. C'est des gens, moi j'en connais un certain nombre, ils élèvent leurs enfants parfaitement, ils font attention à leurs enfants. Seulement, ils sont souvent dans des petits logements, la maman n'a pas forcément de travail, il y a encore quelques familles où la maman est analphabète, ou ou en tout cas c'est mal se débrouiller. Mmh. Ça a beaucoup beaucoup changé, dans la mesure où les gens justement qui avaient un peu plus de moyens ont choisi de s'en aller du quartier parce qu'ils n'avaient plus l'APL ou des choses comme ça. Et donc maintenant on voit, par exemple, quand je vous parlais de l'immeuble à rue Géo-André, dès l'instant où il n'y a plus eu ces familles qui louaient parce qu'il y avait le... Je ne sais plus quel était le...
Le 1% patronal.
Oui, un truc comme ça.
Oui, oui.
C'est repassé, ça, parce que ça s'est dégradé aussi, si vous voulez. Sur 40 ans, ça se dégrade, nous, on voit bien chez nous. Hein. Et finalement, maintenant, c'est des familles qui ont besoin d'être logées, ça c'est sûr, on a rien contre, mais enfin, ce sont des familles qui sont très très diverses et qui finalement ont tendance à rester entre elles, parce qu'il n'y a pas de... on se voit pas dans les commerces. En fait, c'est les gens qui vont à l'école et qui s'engagent d'ailleurs pas dans les parents d'élèves comme avant on pouvait s'y engager. Hein. Et ça, c'est problématique, à mon avis. C'est problématique. Et c'est dommage parce que moi, les familles que je connais, c'est des gens qui ont de la ressource. Ils ont une idée sur l'avenir de leurs enfants et beaucoup de choses passeront par les enfants de toute façon.
D'accord.
Donc, je me dis il faudrait qu'il y ait plus de volonté d'éducateurs de rue aussi, parce que l'école ne peut pas suffire. Mmh. Éducateur, pas forcément que prévention de la délinquance. Ça en fait partie, bien sûr. Mmh. Mais animateur, mais qui soit aussi dans la rue, pas que... Parce que les ASELCO, c'est très bien. Moi, je connais pas mal, là, j'y ai vécu beaucoup, mais j'ai fait de l'aide au devoir pendant des années, notamment, donc j'ai vu comment ils marchent. Mais en fait, il faut qu'il y ait une démarche des familles pour aller les inscrire. Et parfois, pour les plus jeunes, c'est assez cher. Donc, la démarche, je pense qu'il faudrait aussi que ça parte un petit peu de la rue. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Qu'il y ait les familles profiter des beaux jours, etc., pour toucher les familles, les entraîner un petit peu, les attirer, je ne sais pas, à se rencontrer davantage, que les enfants ne soient pas laissés à eux, livrés à eux-mêmes dans la rue,
Est-ce qu'il y a, c'est un grand sujet politique, mais la sécurité, l'insécurité, comment est-ce qu'on pourrait parler de la sécurité dans le quartier? Est-ce que les habitants se sentent en sécurité?
Moi, je pense moyen. Hein. Moyen, parce que moi, mais c'est pas nouveau. Hein. Puis il y a peut-être un a priori. Parce que moi, il y a déjà longtemps, il y avait des gens qui disaient... par exemple, le gay logis, là, au bout, il y avait des gens, ils ne voulaient pas aller tout seuls le soir, après 8, quand il faisait nuit, donc ça pouvait être plutôt l'hiver, à une réunion, par exemple, à Yves Montand, parce que après ça, ils ne se sentaient pas en sécurité pour rentrer chez eux. Bon, c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de petits trafics, hein. ça c'est sûr. Hein.
C'est des agressions sur personne. Sur la personne.
Oui, des agressions.
Il y a eu des, agressions. Oui, mais ça c'est vrai. Hein. Il y a eu même des gens pour se faire voler le petit porte-monnaie. Si, c'est vrai, ça. Mais faut pas. Je pense qu'en plein jour, quand même, il y a peu de risques. Mais c'est vrai qu'il y a des coins dans les blessures où c'est quand même, on se sent peut-être pas très en sécurité. Derrière, par exemple, le gay logis, là, toutes ces courses, cette coursive. Et puis il y a des jeunes, souvent, c'est des gens jeunes, ils savent pas où aller, alors ils se regroupent en bas des immeubles. Là, je pense qu'il y a les médiateurs, ils vont souvent discuter avec eux, la maison de la réussite, ils font quand même, ils font quand même un peu de boulot. Mais on arrive pas à avoir des postes vraiment d'éducateurs, d'animateurs de rue, ça faudrait qu'on les ait. Moi j'ai émis déjà ces désirs-là au Conseil citoyen. Alors C'est vrai, on a réussi à grappiller peut-être un ami ou un éducateur, mais qui est peut-être de temps en temps sur un autre quartier en même temps. Bon, bah, c'est pas suffisant, il faut savoir aussi ce qu'on veut. La prévention de la délinquance, c'est vrai que c'est important, mais même si, heureusement, tous les jeunes ne vont pas tourner délinquants.
Bien sûr, bien sûr. D'accord.
On peut dire qu'on a beaucoup de gens qui sont attentifs, vigilants pour surveiller, mais d'éducateurs qui vont parler avec les jeunes, comprendre leurs problèmes. Ils sont sympathiques, ils disent bonjour, on les voit, et même ils sont gentils avec les jeunes, mais c'est quand même un côté de surveillance où on sait qu'il faut tenir, faut faire attentif, plutôt qu'un côté d'éducateur. L'éducateur qu'on rencontre, un vrai éducateur de rue, il est ami avec les jeunes qui côtoient. Il n'est pmh. pas là pour les surveiller et les pointer. Mmh. Or, on a une surveillance qui se développe et on n'a plus d'éducateurs de rue comme il y a eu à un moment.
D'accord.
La maison de la réussite, ils essayent de faire du travail, hein, c'est vrai. Et puis, il y a les ASELCO, il y a Bloss Initiative, les écoles, il y a toute une force là et qu'il faudrait arriver à... Je sais pas, moi. Quand, si vous voulez, il y a des trucs décourageants. Cette histoire, on dit, là, ça remonte à 5-6 ans maintenant. Notre pétition qui a été mise sous le coude en disant « Mais vous êtes des démagos !» Bon, eh ben, on essaye de faire un maillage entre les gens pour que ça aboutisse à quelque chose où ça fédère. Où les jeunes, les enfants, on s'en occupe bien, où les jeunes se sentent reconnus, où les parents étrangers, qui ont souvent beaucoup de capacités, ils ne soient pas mis sous le boisseau, vous voyez, où ils osent descendre, ils osent... Eh ben non. Donc, après ça, c'est difficile de revenir en arrière. Et c'est vrai qu'il y a de la concertation pour l'aménagement des rues, là. C'est vrai. Ils demandent aux habitants ce qu'ils en pensent. Après ça, c'est écouté ou c'est moins écouté. Mais enfin, il y a un essai de concertation, mais qui ne fait pas descendre les gens des immeubles. On voit quand même les immeubles, et heureusement qu'il y a tous ces pavillons autour. Les gens, ils aiment bien rester là. Hein. Enfin, ils trouvent que les Blossières, c'est un quartier qui peut être sympa. C'est ça que ça arrivait à faire. C'est ce qui fait peut-être un petit peu le cas typique du quartier, vous voyez, où finalement il y a beaucoup de gens qui ont des capacités et qui on leur donne pas l'occasion de les. Et du coup, ils se referment sur eux-mêmes et puis ça revient un peu communautaire, quoi.
Je pense qu'il y a toujours des choses qui se font. Bon, je suis peut-être un peu moins dans l'organisation, à l'école, comme ma fille n'y est plus. Mais je vois, j'entends, je constate qu'il y a toujours des repas partagés, des soirées qui sont organisées. Enfin, il y a toujours cette volonté d'animer le quartier et de multiplier les occasions de rencontres.
D'accord.
En revanche, pour avoir discuté avec des parents, eux constataient qu'à l'heure actuelle, à l'école, c'était plus difficile de mobiliser les parents sur les fêtes. Qu'ils avaient plus ça rejoindrait ce que vous dites, qu'ils avaient plus une attitude de consommateur que d'acteur. Moi, j'ai connu l'époque où les parents, ils venaient, ils préparaient la fête, il y avait la kermesse, on était là. Et le directeur de l'école disait, il n'y a pas très longtemps, que c'était devenu difficile de mobiliser de la même façon les parents aujourd'hui.
C'est quoi le problème ?
Peut-être que, oui, c'est dans l'air du temps de consommer. Mais bon, moi, je suis confiante. Oui. Je suis confiante parce que je crois que l'être humain, il a besoin de solidarité. Et dès le moindre petit truc, on le voit. Enfin, il y a eu des mobilisations. Quand j'ai remis les pieds à l'école, quand il y a eu des soucis avec une famille qui était à la rue et qu'il fallait aider, les gens se mobilisent. Les gens se mobilisent et viennent. Oui, le quotidien ne nous pousse pas forcément à être toujours attentif aux autres, mais dès qu'il y a un signal, tout le monde, les gens sont là. Heureusement. Changé. Alors déjà, moi, j'habite dans les petites maisons qui sont autour. Alors j'habite dans les maisons dont je rêvais habiter quand j'étais gamine. Parce que quand on se promenait, il y avait des gens qui avaient des maisons. Nous, on habitait un petit appartement, on était six gamins là-dedans. On n'avait pas de place de bouger, pas plus que ça. Et quand on passait devant ces maisons, on disait, oh là là, ils ont de la chance. Donc du coup, j'habite une de ces maisons. Voilà. Après, bah, ce qui a changé beaucoup, c'est qu'il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus du tout de commerce. Place de la Nouvelle-Orléans, c'est pareil, il y avait plein de commerces, il n'y en a plus. Bon, alors après, il y a ce quartier qui vit, que nous, on ne connaissait pas. Il y a la campagne en moins. Et puis, il y a les immeubles en plus, et énormément de personnes venues de partout et de nulle part qui habitent dans le quartier. Mmh. Quand je suis arrivée ici, moi j'avais des petits-enfants qui avaient 8, 9 ans, 10 ans. Là où j'habitais avant, on avait un immense jardin, ils jouaient au foot à volonté. Et quand on est arrivé ici, moi j'ai un tout petit jardin, et ils voulaient jouer au foot. Moi ça m'embêtait parce que mes carreaux j'y tiens quand même. Et je leur ai dit, on va faire un tour de quartier et on va voir là où vous pouvez jouer au foot. Mmh. Et en fait, on n'a pas trouvé un endroit où ils pouvaient jouer au foot. Il y avait le seul espace dans lequel ils auraient pu éventuellement jouer au foot, c'était l'espace des pieds blancs, qui était avec des grilles hautes, ouais. Comme je sais pas quoi, à côté du cimetière. Cimetière, c'est quand même pas très raisonnable pour jouer au foot. Donc on a été jusqu'aux ailes, on a vraiment cherché et on n'a pas trouvé. Les tout petits squares qu'il y avait entre les immeubles étaient trop petits pour jouer au foot. Par contre, maintenant, il y a le parc Benoni-Gautier, c'est quand même bien.
Et puis il y a du monde.
Mais là,
je passe souvent devant.
Dans les petits squares, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas vraiment des espaces verts, parce qu'il y a beaucoup de petits squares entre les immeubles qui sont très peu fréquentés, malheureusement. Mais après, c'est pas la grande nature, hein, c'est pas la forêt d'Orient. Hein.
Écoute ta ville.
Paroles d'habitants, les habitants nous racontent l'histoire du quartier.
Radio Campus 88.3 FM.
Alors, ça a été longtemps, parce qu'il y a longtemps qu'ils en parlaient, mais nous, on croyait pas, mais comme ça tombe dessus...
Bon, là, c'est quand même fait traîner un petit peu, mais bon, ils avaient pris leur décision, c'était pris. Ils nous ont fait partir petit à petit, immeuble à immeuble, pour essayer de nous recaser, si on veut. Et parce qu'on voulait pas aller loin, voilà, c'est tout. On voulait rester là parce que après moi c'était chez moi. Alors on voulait pas. Mais même des fois quand je vais là, mais des fois on a le cœur gros parce qu'on dit ah bah tiens ça c'est mon immeuble. C'est bon, on a le cœur gros.
Bah tiens, j'habitais là, c'est.
Ouais, mais on a le cœur gros.
C'était mieux l'ambiance avant, parce que là c'est pas le bon ambiance. Hein. Les gens, ils sont... D'abord, ils sont enfermés.
Ouais, ils sont enfermés, là. Tout le monde est enfermé.
L'été, ils sortent pas. Ils sont enfermés.
Même l'hiver, nous, on était dehors. Ouais. L'hiver, avec autour d'un...
Nous, comment ça s'appelle, à Benoni-Gautier, je parle de mon immeuble à moi, parce que toi, c'était les vieux. J'allais rarement dans mon immeuble à moi. On était tous main dans la main. On se voyait, bonjour, là, là. On dit ce que là... C'est à peine qu'ils disent bonjour.
Et la population.
Toi, tu leur dis bonjour, mais eux, ils ne vont pas te le dire, par contre. Ils vont te regarder pour ça.
La population, elle a changé.
Ouais, c'est déjà pas pareil.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil. Mm. Là, maintenant, c'est chacun pour soi. Mm. Tandis qu'avant, nous, c'était tout en famille. Tu avais besoin de ça, quand on m'a parlé du sucre, tu avais besoin de ça, l'autre, elle avait besoin de la farine, Mireille, la farine. Toi, on donnait, et toi, comme tu avais besoin, ça arrivait que nous, on avait besoin aussi, on n'était pas riches non plus. Hein. On allait voir les personnes, t'as pas ça.
Je redonnerai, mais
non, c'est pas la peine. D'abord, la vie, elle était pas comme là, la vie.
C'est différent. Les gens se contentaient de ce qu'ils avaient.
Ouais.
Ils essayaient d'améliorer leur vie, mais ils n'étaient pas aussi près du système de consommation qui existe aujourd'hui. Parce qu'on pousse les gens à consommer. Tandis qu'avant, non, c'était pas comme ça.
Avant, tu mangeais ce qu'il y avait dans ton assiette. Si tu gagnais avec des patates, tu bouffais avec des patates. Mais tandis que maintenant.
D'accord.
Il n'y avait pas les magasins comme ça. C'était ça. Comme on disait, les jeunes, ils allaient chercher des lapins, ils tuaient des trucs. Mais maintenant, c'est fini, ça.
Mais là où c'est que les HLM, il y avait un commerçant. Et il y avait, le marchand de journaux. Après qu'il est parti, on se parle d'avant. Et après, ils ont fait les HLM... Autrement, c'était bien, t'avais tout sur... ils ont fait le kebab en face de... Il y avait un bar, un bistrot.
Un charcutier aussi.
On avait un charcutier, on avait une boucherie, on avait tout. Ils ont tout défait pour... Après, il fallait courir après à Auchan. C'était pas Auchan, c'était Mammouth, à cette époque-là, il fallait courir loin.
On devait prendre tout ce qu'il y avait comme problème, etc. et aller voir le maire. Il y avait une table ronde. Il y avait président, suppléant
à la mairie.
On était reçus par le maire. Il y avait le directeur de l'Orléanais, c'était les HLM. Il y avait le directeur qui était autour de la table. Et on débattait. Il y avait tous les principaux... intervenants sociaux, et on débattait des problèmes, de ce qu'on pouvait faire, de ce qu'on pouvait arranger, de tout ça. Voilà. Et les habitants faisaient remonter ce qui n'allait pas, et puis nous, on débattait de tous les sujets.
Écoute ta ville.
Parole d'habitants, les habitants nous racontent l'histoire du quartier.
Radio Campus 88.3 FM.